Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. En titre de ce 12h, élection des sénateurs prévue le 16 septembre prochain, les affiches et spécimens de vote ont été remis aux candidats par la commission électorale indépendante. C'était ce week-end au siège de l'institution. Nous y reviendrons avec notre reporter Junior Cardin en début de ce journal. Et pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés dans la région, le Conseil régional du Lodibois finance pour ces derniers des cours de préparation au concours de la fonction publique. Sur le continent, séisme au Maroc. Le bilan monte à près de 2500 morts selon le ministère de l'Intérieur. Et puis en toute fin de ce journal, le sociologue et universitaire Séverin Kwame, interrogé par Marthe Kakou, analysera les résultats du 2 septembre dernier, largement dominé par le parti au pouvoir RHDP, ainsi que le tour de force des candidats indépendants. Voilà pour le sommaire. Ouvrons ce journal avec l'élection des sénateurs qui aura lieu le samedi 16 septembre prochain. En vue donc de ce scrutin, les affiches et spécimens de vote ont été remis aux candidats ou leurs représentants. C'était le samedi 9 septembre dernier au siège de la CEI centrale par le président de l'institution. Témoin pour Radio de la Paix, Junior Cardin.
Après avoir exprimé sa gratitude aux acteurs politiques relativement aux élections locales qui viennent de se tenir, le président de la CEI, Koulibaly Kubière, est allé droit au but devant son auditoire composé de candidats et de représentants de candidats pour l'élection sénatoriale.
Conformément au décret qui a convoqué le collège sénatorial, je vais vous remettre ce matin le collège des grands électeurs pour l'élection sénatoriale, les affiches et puis les spécimens. Les spécimens pour montrer comment on vote et puis les affiches pour présenter ceux qui veulent gérer le Sénat, c'est-à-dire les parlementaires.
Sur le cas spécifique des spécimens, Koulibaly Kubière a apporté un commentaire de taille.
Voyez-vous, rien n'est facile avec vous. Même quand on veut vous aider, on vous donne les spécimens, ça devient un problème. On met dessus spécimens. Mais il y en a qui réussissent à aller enlever spécimens. Je ne sais pas comment ils font. Ils font des montages et on dit c'est la commission électorale qui leur a donné ça. Mais nous, on vous donne ça pour que vous appreniez à nos compatriotes à voter. Parce que quand un taux de bulletin nul se trouve dans une élection, nous, on considère qu'on a failli.
L'élection des sénateurs est l'affaire des grands électeurs, selon le président de la CEI, qui se veut plus précis.
Ces grands électeurs sont constitués principalement, mais pas exclusivement, de ceux qui sont issus des élections locales, c'est-à-dire des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers des districts. Et à côté de ceux-là, il y a les candidats qui sont non élus. C'est-à-dire que quand vous êtes candidat, de facto, vous devenez membre du corps électoral. C'est la seule exception.
La période de campagne est de 4 jours. Elle commence lundi pour prendre fin le jeudi prochain.
Et puis, direction la commune de Madinani, située dans le district autonome du Dinguélé, où la calmie est de retour après quelques jours d'émeutes suite aux résultats des locales du 2 septembre dernier, fortement contestés par les partisans du candidat RHDP, par ailleurs candidat à sa propre succession. Kone Yaya, chef du village de Madinani et chef central du département de Madinani, revient ici sur les éléments déclencheurs de cette situation et appelle les populations à la paix.
L'événement qui s'est passé, tout d'abord, ça m'étonne en tant que chef du village, chef central du département. 95% des habitants de Madinani sont des enfants natifs du village même. Donc nos envies politiques ne doivent pas nous amener à ce genre de conflit qui peut nous vraiment déchirer entre les uns et les autres. Mais ce qui a député ça, c'est le gros mensonge, surtout sur les réseaux sociaux. Les rumeurs ont fait monter la tension de la population. Monsieur, c'est de rétablir la paix. Et je dis à la population aussi, si on comprend la politique, on doit faire la politique du développement et non pas politique pour se déchirer entre nous les uns les autres. C'est de comprendre qu'on est au-dessus de la politique. C'est de comprendre que la politique FDA vient trouver Madinani est déjà installée. On est des frères et sœurs. C'est ce sens-là, on doit vivre avec ça. On doit pouvoir se pardonner.
Vous écoutez Kone Yaya, chef du village de Madinani, également chef central du département de Madinani. Au micro de Bakary Touré Labasse, notre correspondant dans le Kabadougou. Et puis dans le Gbeke, 50 machines servant au transvasement du gaz butane vers d'autres sources d'énergie ont été saisies par la direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké. Ces matériels ont été présentés à la presse le 8 septembre dernier dans les locaux de la direction régionale du commerce. Témoin pour Radio de la Paix, Joseph Assalé, notre correspondant dans le Gbeke.
Désormais, les établissements de transvasement du gaz butane sont traqués à Boaké où plusieurs matériels de travail des fraudeurs ont été saisis. Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME.
Nous avons saisi en 3 jours de contrôle au début du mois d'août près d'une trentaine de machines de pompage. Et maintenant, c'est de nuit qui s'adonnait à cette activité de transvasement. Et nous avons réussi à mettre la main sur la part des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine de machines.
Cette opération vise non seulement à assainir le milieu, mais aussi à garantir le bien-être des populations. D'où l'engagement des autorités à ne plus baisser pavillon, à en croire le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Fadiga Mamadou.
Cette activité dans laquelle ils exerçaient depuis longtemps ne peut plus prospérer. Boaké ne peut plus être comme avant. Nous sommes obligés d'appliquer la réglementation pour l'amélioration même du climat des affaires et puis pour tous les événements que nous voulons abriter à Boaké, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes obligés d'adopter un comportement sorti de l'informel. On ne peut plus travailler au Boaké comme avant. C'est cette mission-là qu'on nous a confiée.
Les différentes organisations des consommateurs saluent l'opération des autorités locales du commerce.
Vous qui vendez les gaz et nous qui consommons aussi, vraiment, nous sommes en danger. Je pense que chacun va prendre ses dispositions pour que nous soyons vraiment plus à l'aise.
Selon le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké, la lutte contre la fraude du gaz butane sera sans répit. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés, le Conseil régional du Lodjibwa subventionne à leur profit depuis 2 ans maintenant des cours de préparation au concours de la fonction publique. De nombreux jeunes gens, dont certains ont passé 10 de fois le concours du CAFOP, le Centre d'animation et de formation pédagogique, sont heureux de leur réussite sans avoir versé le moindre pot de vin. Le point avec notre correspondant régional Abel César Cassin.
Selon le directeur général adjoint d'administration du Conseil régional du Lodjibwa, Anon Bédagabin, ce type de formation met en avant le mérite au détriment des pots de vin. Il est calqué sur l'exemple donné par le premier ministre de la Côte d'Ivoire dans sa région. Voici ce qu'il en est du Lodjibwa.
À la première année, nous avons pu obtenir au CAFOP 54,5 selon les chiffres qui nous sont parvenus. Pour l'INFAS, 12 et 3 comme adjoint administratif. Au regard de ces résultats, on s'est dit que nous pouvons aller encore plus loin.
Le témoignage de ces heureux stagiaires exprimé par leur porte-parole est une invite à multiplier de telles initiatives. Boiseau Bosco.
Grande est notre joie parce que pour certains, c'était la 7e fois, pour d'autres, la 10e fois, pour les plus chanceux, la 2e fois que nous passions ce concours sans bon résultat. Et en 2022, vous avez subventionné notre formation. Cela nous va droit au cœur.
Le président Diablé a rassuré que cette préparation au concours survivra à son départ de la tête de la région.
Cette idée va survivre à mon départ. Ça y est, au budget, il ne faut pas vous inquiéter. Toute l'équipe est là, dans la période de service, on va dire aux gens, ils ont vu ce qu'on a fait, ils vont continuer. Je n'ai rien inventé. Le premier ministre le fait, celui.
En effet, une ligne budgétaire de 30 millions de francs figure désormais au budget pour ses cours de préparation au concours administratif. De Divo Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Un mot de culture dans cette édition, et c'est pour parler de la sortie d'un nouvel ouvrage de Yopougon à New York. C'est l'intitulé du livre écrit par Martial Assem, journaliste ivoirien et producteur radio. L'ancien sociétaire de la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire a officiellement présenté l'ouvrage le jeudi 7 septembre dernier dans la commune de Cocody. À travers cette autobiographie de 372 pages, l'auteur retrace l'ensemble de sa carrière professionnelle, fait plonger les lecteurs dans les coulisses de l'univers des médias en Côte d'Ivoire et met un point d'honneur à motiver la jeune génération.
C'est un parcours qui peut sembler atypique, mais qui, je pense, peut être celui de tout jeune. Et montrer que quand on est quelqu'un qui est persévérant, qui est patient, mais surtout qui sait ce qu'il veut, si vous prenez votre destin en main, vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Il faut être quelqu'un de discipliné. Donc si je suis arrivé, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est un peu une victoire d'une génération. Quand on disait, lorsqu'il y a eu l'ouverture de l'espace audiovisuel en 1998, les radios de proximité, on nous considérait comme des gens qui n'avaient aucune expérience, qui ne savaient rien, qui ne savaient pas ce qu'ils racontaient et tout. Mais en arrivant à ce niveau, c'est une façon pour moi de prouver qu'il ne faut pas minimiser les petits départs. Une façon de dire aussi à mes co-religionnaires qu'il faut travailler. Et puis dire aussi aux professionnels des médias qu'il faut qu'ils documentent leur histoire, raconter aux jeunes générations ce qu'ils ont eu à faire. C'est l'une des façons de pouvoir pérenniser leur savoir, mais aussi de transmettre aux nouvelles générations. C'est très très important, ce devoir de transmission.
Martial Assem, journaliste et producteur radio-ivoirien, auteur du nouvel ouvrage de Yopougon à New York, il était au micro de Didier Blé. Dans l'actualité sur le continent, le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé vendredi dernier une région au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech au Maroc est monté à 2497 morts, a annoncé ce lundi 11 septembre le ministère de l'Intérieur marocain. Un précédent bilan fourni hier dimanche faisait état de 2122 morts. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a annoncé donc ce nouveau bilan de 2497 morts et de 2476 blessés. Retour en Côte d'Ivoire, premier jour de la rentrée des classes dans notre pays. Entre anticipation, rentrée effective, cherté de la vie et difficultés financières, quelle est la réalité dans le Tonkwi? Stéphane Adams, notre correspondant dans la région, a fait le constat à suivre dans ce dossier d'actualité.
Certains parents d'élèves sont dans les marchés et librairies pour se procurer livres et cahiers.
Nous sommes venus prendre quelques documents pour nos enfants afin de pouvoir parfaire leur entrée scolaire.
Moi particulièrement, j'ai déjà tout acheté, mais il me reste quelques livres. Je viens aujourd'hui pour acheter rapidement ce qui me reste. Quand un enfant a tous les livres aussi, il est à l'abri des demandes à ses amis.
Dans cette foulée, Abdoulaye Kone, commercial dans une librairie de la place, nous parle de l'engouement autour des fournitures scolaires.
Les choses se passent très bien. Pour le moment, nous enregistrons l'arrivée des fournitures au fur et à mesure. Ce qui concerne les parents, ce n'est pas la grande affluence pour le moment. En tant que commerçant, j'aurais aimé que les parents viennent acheter. C'est ce qui nous arrange. Quand c'est la grande affluence, bon, nous faisons beaucoup de bénéfices. Donc pour le moment, en tout cas, ce n'est pas la grande affluence.
Si la période est considérée favorable pour les libraires, certains parents pointent du doigt le coût élevé des articles.
Les enfants sont privés et puis il faut encore payer les fournitures. Les fournitures sont devenues chères l'année passée par rapport à aujourd'hui. Les prix sont montés.
Ce que nous attendons de nos enfants nous fait plaisir, nous fait oublier la cherté des ouvrages.
Une requête à laquelle cet élève, accompagné de sa maman pour les achats de ses fournitures, donne cette assurance.
Maman est venue acheter les fournitures et cela me motive à bien travailler à l'école, être excellent et rendre mes parents heureux.
À la question de la cherté des fournitures scolaires, ce libraire s'est voulu clair et précis. Bakoumou Adama.
Le moment fourniture, on peut tout trouver. Tous les articles, bureautiques, informatiques, on a tout. Ça vient d'ailleurs, à Abidjan, on a un fournisseur là-bas qui nous livre. Si ça a monté, il nous dit, ah vraiment, ça a monté. Si ça descend, il nous diminue. Où le prix était élevé, c'était l'an passé. Fourniture de 6e qui était à 7 000, c'est passé à 11 000, 10 000 l'année passée. Cette année, en fonction de 8 000, on peut vendre.
Plus loin, chez les libraires du secteur informel, les clients se font rares, qui laissent place à l'ennui. Cependant, certaines personnes voient en ce type de librairie une véritable aubaine contre la cherté des fournitures scolaires.
Les librairies informelles sont accessibles. Les prix sur les articles sont discutables. Quand tu viens, on peut te dire un prix, mais il peut arranger le prix, peut diminuer. Voilà, vous pouvez vous entendre facilement. Mais les librairies formelles, c'est déjà fixé. On ne peut rien discuter. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'article.
Ce lundi 11 septembre marque le début de l'année scolaire 2023-2024. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Nous en arrivons à l'invité de la rédaction, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Docteur Séverin Kwame se prononce sur les récentes élections municipales et régionales couplées du samedi 2 septembre dernier au centre des échanges. Les bonnes performances du RHDP et des candidats indépendants, que retenir de ces résultats? Docteur Séverin Kwame, l'invité de la rédaction dans un entretien conduit par Marthe Kakou.
Docteur Séverin Kwame, bonjour.
Bonjour Madame Kakou.
Les élections locales ont eu lieu le 2 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors, quel regard jetez-vous sur le déroulement de ces scrutins?
En dehors de quelques îlots de tension et de violence, de façon globale, les élections se sont déroulées dans un environnement relativement apaisé parce que la mémoire collective est fortement affectée par les épisodes de violence qu'il y a toujours eu lorsqu'il y avait des moments d'élection. Ça va même au-delà du jour même du scrutin. On a eu des moments de tension lorsqu'il s'est agi de l'enrôlement sur les listes électorales. Il y a eu toute la problématique dite de la transhumance électorale qui a généré quelques tensions. Le jour du scrutin, fondamentalement, en dehors de quelques incidents localisés, c'était pas le vote qui était le problème, c'était toute la question du dépouillement, de la gestion des résultats, de la transmission de ces résultats et de la consolidation de ces résultats pour leur proclamation. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau de la commission électorale pour justement crédibiliser ce processus parce qu'il cristallise encore des tensions et va générer la question même de l'acceptation de la défaite ou de la victoire autour d'une élection. C'est comment on rend ce processus plus professionnel, plus lisible, de sorte que les uns et les autres acceptent le verdict des unes parce que, de leur point de vue, le suffrage exprimé serait en adéquation avec la réalité du vote qui a été fait.
Au terme de la proclamation des résultats provisoires par la CEI, l'on constate que certaines personnalités n'ont pu être réélues dans leur circonscription. Comment expliquez-vous cela?
La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que ces personnes n'ont pas assez fait pour que la population les désavoue, malgré le statut de grosse tête ou d'élite ou etc. qu'on peut leur donner. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Les populations ne sont pas dupes. Elles évaluent, parfois elles savent sanctionner parce que justement, certains prennent pour acquis leur notoriété et considèrent cela comme un capital suffisant pour se faire élire. Il y a un travail de fourmi à faire, il y a un travail de proximité à faire avec les populations, de sorte qu'aujourd'hui, dans de nombreux contextes, les gens ont tellement de besoins que lorsqu'ils ont le sentiment que, indifféremment de la carrière de cette personne, cette dernière est en capacité d'être à leur côté, il y a un minimum de reconnaissance qui se traduit par un vote actif à leur faveur. Donc, je pense que le personnel politique doit se remettre en cause, doit questionner la façon dont elle démarche les populations, parce que c'est pas partout qu'on vote juste parce qu'on a l'aura d'un parti ou parce qu'on a une réputation de ponte d'un régime qui nous précède. Il y a aussi que, parfois, il y a une fatigue, il y a du désespoir, de la désespérance, qui fait qu'on peut aussi aller vers des candidatures alternatives parce qu'on est fatigué de ce qu'on vote toujours les mêmes personnes et rien n'est dans notre quotidien.
Docteur Séverin Kwame, l'organisation de ces élections a été critiquée. Dans certaines localités, surtout, les bureaux ou centres de vote ont ouvert tard. Et de plus en plus, on parle de l'implication de certains agents électoraux dans des cas de fraude supposée. Qu'en pensez-vous?
Vous savez, la critique, elle est aisée. Mais à l'ouvrage, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous avons une démocratie qui se construit. Sans absoudre la commission électorale de toutes ces choses qu'on peut lui reprocher, il faut reconnaître que du travail a été fait. Maintenant, notre ingénierie, notre démarche pour organiser des élections est perfectible. Le personnel en charge de la gestion justement du scrutin a besoin d'être professionnalisé. Je crois qu'il faut peut-être mener la réflexion dans ce sens. On peut tirer leçon de tout ça parce qu'on est dans une démocratie qui est perfectible. Donc, il faut faire un état des lieux. Il faut du personnel qualifié, il faut du personnel professionnel bien formé qu'on peut utiliser lors des différents suffrages de sorte que plus personne ne doute de la façon dont le vote des Ivoiriens qu'il faut respecter, comment ce vote est décompté et transmis de sorte que les résultats soient conformes à ce qui a été fait et au suffrage qui se sont exprimés sur le terrain. Donc là-dessus, je pense qu'il faut en tirer les leçons et améliorer le processus. Même les grandes démocraties souffrent aussi de certains dysfonctionnements dans leur processus électoral.
Docteur Séverin Kwame, des contentieux naissent un peu partout. Des candidats qui, au départ, avaient reconnu leur défaite et félicité leurs adversaires, ces candidats se retournent à nouveau pour porter plainte contre les vainqueurs. Il y a bien quelque chose qui ne va pas quelque part.
Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. Le contentieux fait partie du processus. S'il se trouve que, sur l'instant, ils estiment qu'ils ont été battus à la loyale, mais que, sur le court terme, ils ont d'autres éléments qui leur permettent de contester la victoire de leur adversaire, c'est leur droit. Je pense que tout ça n'arriverait pas si on avait un processus qui, mené de façon professionnelle, permette aux uns aux autres, au moment où le dépouillement est fait, où les voix sont comptabilisées, qu'ils aient la certitude qu'ils ont été battus ou qu'ils ont gagné, mais de façon transparente. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Justement, il y a toujours toujours la voie ouverte au consensus, même s'ils ont félicité. Ça ne donne pas force de loi à la victoire de l'autre. En tant que démocrate, en tant que gentleman, ils peuvent féliciter, mais sur la base d'éléments d'information qu'ils ont à un moment X, mais à un moment Y, s'ils ont d'autres éléments, ben, ils sont en droit. Et ça, la loi le leur permet, donc ils peuvent naturellement exercer ce recours.
Docteur Séverin Kwame, je vous remercie.
Merci, Madame Kakou.
C'était Docteur Séverin Kwame, sociologue, enseignant, chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. Invité de la rédaction, il répondait aux questions de Marthe Kakou. Et c'est la fin de ce rendez-vous de l'information dont voici le rappel des titres. Élection des sénateurs prévue le 16 septembre prochain. Les affiches et spécimens de vote ont été remis aux candidats par la commission électorale indépendante. C'était ce week-end au siège de l'institution. Et pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés dans la région, le Conseil régional du Lodjibwa finance pour ces derniers des cours de préparation au concours de la fonction publique. Et puis sur le continent, pour terminer, séisme au Maroc, le bilan monte à près de 2500 morts selon le ministère de l'Intérieur ce lundi. Voilà, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite la revue de presse pilotée aujourd'hui par Aoussi Poutin.
Bonjour à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire va vibrer le 16 septembre prochain au rythme d'autres élections, les élections sénatoriales 2022.